Bienvenue si vous nous rejoignez cet été sur Europe 1. Isabelle Morizet plonge dans ses meilleures archives et vous propose des rediffusions exceptionnelles. Et ce soir, c'est un tête-à-tête avec David Hallyday, venu se confier au micro d'Isabelle Morizet en décembre 2018. Votre rendez-vous confidence et anecdote, c'est maintenant sur Europe 1. Très belle soirée à tous.
Bonjour David.
Comment vas-tu? Content de te revoir,
ah, et
comme
moi
d'habitude.
Donc. Et moi donc, cher David. Alors, Hallyday, c'est pas un nom anodin. D'abord parce qu'aucun Français n'a échappé à l'épopée de l'idole. Ensuite parce qu'en anglais, eh ben, Hallyday a une lettre près, le O à la place du A, ça évoque les vacances avec toute l'euphorie que ça représente. Mais depuis un an, Hallyday, c'est un nom chargé qu'il convient de défendre. Alors jusqu'à présent, on sait comment vous l'avez porté, mais désormais, et dans les années à venir, David, vous voulez l'investir de quoi ce nom? Comment vous voulez le perpétuer ce nom?
En fait, c'est un nom qui symbolise la musique d'abord. Et puis, on va dire, depuis, moi je pense que j'ai déjà deux, trois générations d'artistes dans ma famille du côté maternel et du côté aussi paternel, puisque mon grand-père paternel faisait du théâtre et tout. Donc, c'est vraiment une histoire de famille, la musique et l'art en général.
Alors, David Hallyday, il y a quelques semaines, on vous a découvert en une de Paris Match qui titrait « Un an après la mort de Johnny, David Hallyday sort de son silence et dit sa vérité ». Or, jamais vous n'avez accordé d'interview à Match pour cette couverture dont vous avez été le premier surpris. Seulement, bon, ça, les lecteurs de Match l'ignoraient. En fait, la vérité nue, celle que personne ne pourra détourner, elle se trouve au cœur de ce nouvel album. J'ai quelque chose à vous dire. Cet album qui a été presque écrit, je crois que c'était au tout début de cette année, j'ai presque envie de dire dans l'urgence du chagrin.
On va dire que chaque album que j'ai fait, j'ai dit ce que je pensais. Je disais, je pense qu'il n'est même pas question de parler de vérité ou c'est juste dans la musique, on parle de ce qui... J'ai toujours parlé de ce qui me touche. Et voilà, j'ai toujours eu quelque chose à dire. Hein. C'est pas le premier album où j'ai quelque chose à
mais
dire.
Mais les textes, là, sont particulièrement chargés quand même. Mais
bien sûr, ils sont chargés parce que la période pendant laquelle je l'ai composé est une période, on va dire, qui marque un être humain. Et tous ceux qui sont concernés par ce que j'ai vécu aussi et peuvent le comprendre. Je pense que si eux avaient la capacité de transcrire leurs émotions et de dire la manière... Je pense qu'ils le feraient à travers sans doute une peinture, un mode d'expression artistique, on va dire. Moi, je me suis construit comme ça depuis que je suis tout petit, depuis que je compose des chansons. Et
vous êtes plutôt taiseux dans la vie.
Je suis pas taiseux.
Discret, en tout cas, très.
Oui, c'est pas la même chose, parce que taiseux, c'est pas pareil. Non, je mets des priorités sur l'importance de répondre à certaines personnes et sans descendre trop bas. Mais je ne me tais pas quand il faut pas me taire.
Alors justement, vous ne vous taisez pas lorsque il faut pas vous taire. Et dans la chanson qui a pour titre « Éternel », vous confiez « J'ai fait tous les ponts pour qu'on se parle, du silence de plomb à la pierre tombale. Tu peux m'empêcher de tenir sa main, tu peux tout casser ou tout effacer. Rien ne peut souffler la flamme d'où je viens. » Elles sont explicites, ces paroles.
Très explicites, bah, évidemment. On vit des moments forts, forcément ça passe par des mots forts. Et c'est comme ça que ça se passe. Et on ne tourne pas autour du pot. Moi, j'ai pris mon expérience personnelle et j'en ai fait un thème universel, puisque c'est... Il y a des millions de gens concernés aussi qui peuvent comprendre, qui ont vécu les mêmes choses. Donc voilà, mais ce qui ressort de cette chanson, c'est plutôt quelque chose de très lumineux. C'est le fil conducteur, c'est l'amour indestructible entre les gens qui s'aiment et le fait que l'on veuille ou non, on ne peut pas casser ce qui a existé.
Mais
c'est chez tout le monde pareil.
Vous dites, elle concerne beaucoup de gens, tout le monde n'est pas empêché, en fait, de dire au revoir à l'être le plus cher. Comment fait-on le deuil de son père quand on a été, justement, empêché de lui dire au revoir?
Eh bien, je pensais bien que je n'étais pas le seul au monde, mais j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui ont vécu la même chose. Évidemment, ça rajoute énormément de peine. Déjà, c'est suffisamment violent de perdre un proche, mais dans ces conditions-là, c'est pire. Hein. Ça ne fait qu'accentuer la peine. Mais encore une fois, ce n'est pas une question de dénoncer qui que ce soit ou quoi que ce soit.
Non, c'est ce que j'ai précisé au début de cette conversation, mais c'est très... Il y a une douleur. que certainement vous allez porter longtemps, parce que, et là c'est moi qui me permets d'insister là-dessus, à Marne-la-Coquette, comme le staff médical, le public l'a appris, ce staff médical vous a interdit d'entrer dans la chambre de votre père alors que d'autres qui n'étaient pas son fils pouvaient y entrer. Vous avez écrit une lettre à votre père avec tous ces mots que font jaillir l'amour et le désespoir, mais cette lettre on ne l'a jamais donnée à votre père et on ne lui a même pas lu. Je voudrais savoir en fait quels arguments on a avancé quand on vous a expliqué le lendemain, alors qu'il était parti, donc tout était trop tard, qu'on ne lui avait même pas lu cette lettre.
Bon, alors ça, c'est une période de ma vie, je n'ai pas trop envie d'en parler parce que ça me replonge là-dedans. Et comme je suis quelqu'un qui aime avancer dans la vie et puis mettre les choses derrière moi, des choses très difficiles, j'ai mis suffisamment de temps et de peine à composer cet album. C'est pas quelque chose que j'ai envie, voilà, c'est très personnel et puis j'ai plutôt envie d'aller de l'avant en fait. C'est très difficile de vous faire replonger à ces moments-là alors qu'on essaye de avancer, c'est compliqué.
Cet album, sa mise en image a été faite avec votre sœur Laura. C'est la première fois qu'elle tenait la caméra, Laura ?
Non, elle a déjà fait des clips très réussis d'ailleurs. Et puis voilà, c'est son univers. J'avais très envie. En fait, la question ne s'est même pas posée de savoir.
Oui,
c'était
y avait
très
une
important.
Légitimité évidente.
Ouais. Un premier clip, c'est la carte de visite d'un album. Donc celui-là, évidemment, était très important pour moi aussi. Et qui prendre d'autre que Laura, qui a vécu les mêmes choses que moi, qui a ressenti les mêmes choses. Il n'y avait qu'elle dans ma tête qui pouvait faire ce travail sur ce titre-là. Évidemment. Donc, moi, la question ne s'est même pas posée. Et puis, elle a énormément de talent.
Alors, est-ce que pour Laura Smet, que l'on connaît pour l'instant comme comédienne, essentiellement, est-ce que finalement, c'est une nouvelle vie comme ça qui se dessine derrière la caméra ?
Je pense que elle se découvre aussi un autre talent aussi, une façon différente aussi de s'exprimer. Et elle le découvre maintenant et c'est formidable. Je pense que ce clip. C'était pas un cadeau au début, c'était quelque chose de très très difficile à faire parce qu'on savait tous, elle savait aussi que ça allait être scruté, les symboles allaient être analysés, tout ça, donc c'était compliqué pour elle aussi. Mais je pense que ce clip pour nous est très réussi et je pense que ça l'a confortée dans l'idée qu'il faut qu'elle persiste et qu'elle continue là-dedans. Et je pense qu'elle a très très envie, je sais qu'elle travaille sur un long métrage en ce moment, qu'elle écrit aussi.
Ah oui.
Et donc voilà, elle est très très douée, Laura.
Jusqu'à 22h, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Ce soir, David Hallyday nous raconte sa fascination pour la batterie depuis qu'il est tout petit. On les retrouve dans un court instant sur Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Europe 1, il est 21h07. Un projet de cuisine, c'est avant tout une histoire de style. Pour trouver le vôtre, pas de panique. Minimaliste, scandinave, industriel ou naturel, toutes les tendances sont chez Ixina. Pour trouver l'inspiration, rendez-vous dans l'un des 150 magasins Ixina ou sur le site ixina.fr. Ixina, élue meilleure chaîne de magasins de l'année. Quand Ixina, tout va. David Hallyday est avec nous ce soir dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. On le retrouve tout de suite au micro d'Isabelle Morizet. Très belle soirée sur Europe 1.
Cher David, jouer de la batterie à l'âge de 6 ans devant Jimi Hendrix. Oh, vous devez être le seul musicien de la planète qui a un souvenir pareil.
En fait, c'est ce qu'il m'a dit. Maintenant, je n'ai pas de souvenir de ça.
C'est votre père qui vous l'a dit ?
Oui, il me l'a sorti un jour comme ça et je lui ai dit, et tu me le dis maintenant. Mais bon, j'ai le souvenir de jouer de la batterie devant ses potes. C'était assez récurrent, en fait. Donc moi, j'étais ravi, hein, les voisins moins, ces heures...
C'est vous qui demandiez ou c'est votre père qui était très fier et qui vous laissait...
Non, à 4h du matin, je dormais à l'âge de 7 ans, 8 ans. Non, c'est pas moi qui demandais.
Mais on venait vous réveiller pour montrer à quel point il était doué, le petit prodige.
Mais c'est une famille très rock'n'roll, hein, comme tu sais. Donc moi, ça ne me dérangeait pas. Ouais.
Donc, vous avez commencé par la batterie, avant le piano et la guitare, car même caché derrière, en fait, le pouvoir du batteur sur scène, il est phénoménal, n'est-ce pas ?
Bah oui, c'est un instrument super démonstratif et puis c'est vrai que c'est un instrument un peu animal en fait. Et c'est ce qui m'a plu dès le départ. J'étais fasciné par cet instrument tout petit, et le fait de comprendre assez rapidement, on va dire, tout ce qui était rythmique, ça m'a permis de commencer à jouer.
Parce que c'est lui qui structure, c'est en fait la colonne vertébrale de tous les morceaux.
Et j'ai adoré ça, ouais. j'ai adoré ça depuis toujours, et puis voilà.
Donc, alors c'est justement... David Hallyday, derrière une batterie.
Mais toi aussi, tu joues de la batterie, non ?
Ah, dans une autre vie, oui.
Bah non, dans la même.
Alors, c'est derrière une batterie que le grand public vous a découvert sur scène au cours d'un méga show de votre père en 79. Vous étiez un ange blond d'une douzaine d'années, dont la frimousse était presque masquée par les tomes, justement, d'une batterie énorme. Mais vous aviez un groove d'enfer. J'ai revu les images et j'ai écouté. Alors, accompagner l'idole sur scène pour un titre entouré des meilleurs musiciens français et devant une foule en transe, tout ça à l'âge de 12 ans, ça doit être un électrochoc qu'on ne doit pas oublier.
Bah non, c'est la première fois sur scène devant un public énorme, c'est la première fois avec mon père sur une scène. Cette soirée-là était totalement, on va dire, je n'étais pas supposé le faire, c'était une idée de mon oncle en fait, qui c'était la dernière de la tournée de mon père qui se passait donc au pavillon de Pantin. Maintenant, il y a le Zénith à la place.
Oui.
Donc du coup, c'est lui qui m'a un peu forcé à le faire parce que c'était
la
dernière.
Vous êtes préparé comment ? Il vous a averti une semaine avant, votre oncle ?
Non, deux, trois jours avant. Et puis je l'avais répété un peu dans ma chambre. Donc je me sentais super à l'aise dans ma chambre, mais quand il fallait aller le faire, je faisais un peu plus la gueule. Mais
donc vous êtes rentré.
Mon père aussi, quand il m'a
le
vu derrière.
Le moment où on s'installe derrière. Ah, parce qu'il n'était pas du tout au courant, Johnny.
Non, personne n'était au courant. C'était un peu le but. C'était un peu le but, parce qu'à l'époque, pour les dernières de tournée, tout le monde faisait des blagues, en fait. C'était un petit peu dans l'équipe, entre les musiciens, l'artiste, toute l'équipe, quoi. Maintenant, on ne fait plus ça. Mais d'ailleurs, c'est bien dommage, parce qu'on devrait.
Et les musiciens de votre père, lorsqu'ils ont aperçu l'ange blond qui s'installait, qui prenait les baguettes ?
Ah, ça, j'en sais rien. Mais moi, j'étais focalisé sur mon père. J'ai dit, qu'est-ce qu'il va me mettre après, quoi ?
Et quand il s'est retourné et que vous avez croisé son regard ?
On va dire, ouais, j'ai eu assez peur. Il a eu assez peur aussi. Et puis finalement, ça s'est bien passé. Et malgré cette expérience un peu traumatisante pour moi, parce qu'on m'a un peu propulsé là à mon insu, on va dire que j'étais en même temps assez choqué de l'expérience. C'était un truc assez merveilleux. Et en même temps, j'étais content de sortir de cette scène, quoi, de partir.
Mais vous étiez satisfait de votre prestation, David ?
Ouais, je pensais pas à ça. Hein. J'étais satisfait de quitter la scène, surtout. J'étais pas prêt du tout.
Je vous assure que c'était formidable.
Ça. Bon, bah alors.
Bon, don, vous l'aviez, ouais. Vous l'avez prouvé très tôt. Mais de Sylvie et de Johnny, qui en fait en était le plus fier, le plus impressionné de toutes ces dispositions que vous manifestiez ?
Bah, je pense que les deux faisaient le même métier, donc les deux partageaient le plaisir de cette soirée-là, de me voir. Ça les a beaucoup amusés, moi beaucoup moins, mais ça les a beaucoup amusés. Ça fait loin, Karen, ça fait loin.
Enfin... Et d'ailleurs, il m'appelle Karen, c'est merveilleux.
Pardon, Isabelle.
On a réatterri sur une autre planète.
Ça fait loin, Isabelle, ça fait loin.
Alors, en même temps, Sylvie, bien sûr, était fière, mais elle était, paraît-il, très, très inquiète à l'idée que vous suiviez les traces de vos parents. Est-ce qu'il est vrai, David Hallyday, qu'en 83, le groupe star du moment, Duran Duran, groupe de pop-rock New Wave britannique, vous avez demandé de devenir leur nouveau batteur alors que vous n'aviez pas encore 17 ans? Et il paraît que Sylvie a refusé.
Oui, c'est toute la famille. C'était un petit peu jeune pour me faire arpenter... les routes déjà avec toute la folie de
Duran en 83, c'était gigantesque.
J'ai fait la gueule pendant longtemps et puis après finalement je me suis dit que je pouvais faire tracer ma propre route et prendre le temps de faire ça.
Alors quand vous dites j'ai fait la gueule pendant longtemps, c'est-à-dire que il paraît que vous avez quitté la maison un temps quand même, maison qui, je le précise, à l'époque se trouvait en Californie.
Oui, j'ai grandi aux États-Unis. Ouais, en fait, on a déménagé en 71. Tu sais, le siècle dernier. Et puis, j'ai appris la musique là-bas aussi. J'ai fait mes premières armes là-bas. J'ai sorti mes premiers albums là-bas et tout. Donc, on vivait là-bas depuis longtemps. Donc, tout se passait forcément là-bas pendant mon adolescence.
Donc, en fait, David Hallyday, vous n'avez pas choisi la musique. C'est la musique qui vous a choisi.
Mais exactement, ouais. Je n'ai pas fait de choix, en fait. C'était juste comme ça. C'était une passion. Quelle que soit la passion, on est animé du matin au soir. Je pense que moi, je me levais avec... avec de la musique en tête. Et après l'école, il fallait que je joue, il fallait que je...
Mais enfin, c'était peut-être compose. Plus facile aussi de faire ses classes au lycée français au cœur de Los Angeles, parce que déjà à 15h, on est dehors, et parce que monter des groupes, c'était plus facile qu'en France.
On est dans
France.
Un pays très musical.
Ouais.
Aux États-Unis, on est dans un pays sportif et très musical.
David Hallyday est avec nous ce soir dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Il nous raconte dans un instant son arrivée enfant en Californie. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Jusqu'à 22h, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. L'entretien de David Hallyday en toute intimité, c'est maintenant sur Europe 1.
Cher David, en fait vous êtes parti vivre très tôt au cœur de l'enfance, donc comme ça dans le sillage de votre maman aux États-Unis, en Californie. On peut dire que sur le plan culturel quand même, ça a été une sacrée rupture de laisser 10 km de distance entre la maison familiale Loconville et Paris et puis la maison californienne. Est-ce que vous avez tout de suite aimé et compris l'Amérique ?
Oui, c'était un rêve au début, hein, mais des rêves d'enfant, hein, le soleil. Puis il y avait Disneyland, j'avais foutu
prêt.
Les pieds une fois, ma mère m'a emmené, c'était terminé.
Pourquoi ?
Je pensais que j'allais travailler à Disneyland quand j'étais petit. Parce que c'est un rêve quand on est petit, Disneyland, et même grand, hein, c'est un endroit sympa. Mais quand on est
la Californie ressemble à une gigantesque station de vacances.
Oui, on a une vue d'enfant, quoi, du skateboard, du skate, voilà, c'était... Ça symbolisait un petit peu tout ça pour
et
moi.
En Californie, vous deveniez un enfant anonyme.
Oui, mais ça, je ne le savais pas encore à cet âge-là.
Oui, mais ça rassurait beaucoup votre mère.
Ah, par contre, oui, c'est pour ça qu'elle m'a emmené là-bas, en fait.
C'est pour ça.
Oui, c'est pour ça, oui. Ma mère a un instinct de protection énorme et donc elle ne voulait pas me laisser dans un environnement, on va dire, de tabloïd et de choses compliquées. Elle ne voulait pas que je traverse des périodes compliquées aussi. Un peu les années 70, ça, c'était des années... formidable au niveau créatif et tout ça, mais c'était compliqué aussi.
Alors, dans un premier temps, David Hallyday, comme tout ado qui a besoin d'une figure paternelle pour se construire, parce que quand même 10 000 km entre la France et la Californie, il paraît que vous fantasmiez assez sur Steve McQueen qui dégageait une autorité pleine de séduction et qui était passionné de compétition automobile.
Oui, les motos...
Vous, plus tard est devenu, on en parlera tout à l'heure, j'ai appris en me penchant comme ça sur votre cheminement que vous étiez un champion de course automobile, champion de France d'ailleurs, grand tourisme, étonnant.
J'ai toujours aimé le sport, donc forcément moi je jouais beaucoup au tennis, je faisais pas mal de compétitions aussi, et puis j'ai toujours été dans le sport, la compétition aussi. Donc avec la musique, donc l'environnement dans lequel je vivais finalement, parce que tous mes potes...
Voilà, se surpasser en permanence,
tous mes potes faisaient la même chose, tout le monde fait du sport, voilà, donc j'ai grandi dans cet environnement-là. Donc forcément, plus tard, ça m'a forgé l'esprit de compétiteur.
Alors, je continue de dérouler le fil, on en était à l'adolescence. Il a beaucoup compté pour vous, le compagnon de votre maman Sylvie, Tony Scotti.
Oui, beaucoup. C'est un homme merveilleux. C'est un homme qui s'est intéressé à moi aussi. Pas qu'à ma mère quand ils se sont rencontrés. Donc ça, c'est vrai que tous les enfants qui ont des vies recomposées, on va dire, j'ai pas du tout accepté mon beau-père au début. C'était très, très compliqué pour moi. Parce que mon père me manquait déjà. Et puis, je voyais pas pourquoi un homme qui vivait ma mère n'avait jamais vécu avec une figure masculine, enfin avec un homme à la maison, quoi.
Ouais.
Donc je ne l'ai pas du tout accepté.
Il vous volait votre mère.
Voilà, exactement. Mais bon, après, sans rentrer dans les détails, je pense que quand on est petit, c'est... Et puis il s'est vite intéressé à moi, à ma passion. Il me montrait quand même beaucoup d'intérêt et c'est ça qui a fait changer les choses, en fait. Il me donnait quand même beaucoup d'amour, beaucoup d'intérêt. Il me
parlait
beaucoup
en vous.
De confiance.
Voilà.
Ouais, c'est un homme très fort.
Et il a envisagé des choses pour vous. Parce que, c'est très américain de commencer en bas de l'échelle de la boîte de son beau-père. Effectivement, avant de faire de la musique pour la société Scotti Brothers Records, eh bien, Tony Scotti vous a d'abord confié, paraît-il, un emploi de manutentionnaire.
J'avais commencé déjà.
Expérimenter comme ça au bas de l'échelle, comme le veut justement la culture anglo-saxonne. Et puis très vite, vos ambitions artistiques et vos dons ont été entendus. Donc en 87, vous voilà dans l'un des rôles principaux de la comédie He's My Girl, produite par Tony Scotti, pour laquelle vous composez deux chansons qui vont devenir, et ça c'est tout à fait inattendu, deux énormes succès du top 50 en France. Vous avez en fait rempli le dossier au-delà de toute espérance. Il a été surpris, votre père, Johnny, de voir comment le public français vous accueillait, David. Il a été surpris peut-être de découvrir que son fils était un compositeur de talent.
Bon, en fait, je pense que s'il a surpris, parce que c'est vrai que j'avais composé ces deux titres pour le film aux États-Unis, c'est qu'un des titres est rentré dans le top 30 aux États-Unis, en fait. D'abord, c'est ce qui m'a permis de venir en Europe et donc en France après. Donc c'est l'inverse qui s'est passé. Et c'est vrai que suite à cette rentrée de titres dans les charts américains, ça l'a beaucoup étonné, en fait. Il ne s'y attendait pas du tout. Mais comme on communiquait assez souvent par téléphone, et c'est comme ça aussi qu'on se parlait. Je lui faisais écouter ce que je faisais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu penses de ça? Mais il était loin de penser en fait que j'allais faire ça. Et il a été, c'est clair, très 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 étonné quoi.
Et puis l'année suivante, David Hallyday, le premier album que vous avez composé, True Cool, a remporté un succès international. Et en France, ça a carrément été un triomphe puisque High, le titre qui en était extrait, est resté numéro un des ventes pendant 5 semaines d'affilée. Alors c'est à partir de là que vous êtes senti légitime, en fait, pour composer pour votre père la première chanson que vous lui avez offerte, Mirador.
Non, je me sentais pas plus légitime.
Qui vous a demandé cette chanson ?
Je me suis toujours senti légitime à partir du moment où.
Oui, mais pour composer pour votre père, c'est pas évident, étant donné que.
Non, mais c'est lui qui me l'avait demandé.
Il a le statut. C'est votre père qui avait demandé.
Lui qui me l'avait demandé. Il adorait cette chanson qui figurait sur mon album en anglais. Cette chanson s'appelait To Have and To Hold, et elle est devenue Mirador, dont le texte avait été écrit par Étienne Rodagil à l'époque. Et c'est une chanson que je lui ai donnée.
Et cette chanson.
Il l'a mis dans un de ses albums, Cadillac, je crois.
Voilà, hein, interprétée par Johnny, est devenue numéro un en France.
Ouais, bah c'est une grande fierté pour moi. C'est la première fois que je participais un petit peu indirectement, on va dire, avec mon père. Et le fait que cette chanson ait eu un succès, un gros succès en France, bah moi, c'est vrai que j'étais super content, moi, là-bas, d'avoir fait quelque chose avec mon père pour la première fois. Et voilà, c'était une grande fierté pour moi.
Dans un instant, c'est la suite de cet échange intime entre Isabelle Morizet et David Hallyday. Il nous racontera le jour où son père, Johnny, lui a demandé de composer un album pour lui. A tout de suite sur Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1. Europe 1.
David Hallyday se confie ce soir dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. On le retrouve tout de suite sur Europe 1.
Alors, David Hallyday, en 57 ans de carrière, Johnny, votre père, a vendu 110 millions de disques. Il a rempli 101 fois Bercy, 7 fois le Parc des Princes, 9 fois le Stade de France. Il a décroché 40 disques d'or, 22 disques de platine, 3 disques de diamant. Mais au-delà de tout ça, c'est à vous, vraiment, c'est à vous que Johnny doit son triomphe discographique inégalé, puisque l'album qui s'est le plus vendu de toute la carrière de Johnny est celui que vous lui avez composé intégralement, vous et vous seul. Son fils. Cet album baptisé 100%, vous l'avez imaginé en 99 pour votre père, et il s'est écoulé à plus de 2 millions d'exemplaires. Qui a eu l'initiative de ce projet ? C'est Johnny ou c'est vous, David ?
2 millions sur 110 millions, c'est pas beaucoup.
Oui, mais en 57 ans de carrière...
Non, je rigole.
Non. J'adore son humilité. Je le retrouve bien là.
Non, mais évidemment, c'est une grande fierté pour moi, et ça l'était pour lui aussi. C'est lui qui m'a posé la question au départ. Moi, j'étais reparti aux États-Unis pour reformer mon groupe de musique. Et donc, je tournais beaucoup aux États-Unis à ce moment-là. Et j'avais perdu un petit peu le contact avec la musique française. Donc, le moment où il me demande de composer pour lui un album, je suis un petit peu étonné, parce que d'ailleurs, c'est ce que je lui dis. Je lui dis... Mais pourquoi moi ? Je veux dire, j'ai un peu perdu le contact avec la musique là-bas. Je ne sais pas ce que les gens ont envie d'écouter. Je dis non, mais c'est avec toi que je veux le faire. Et donc, ça m'a conforté dans l'idée de voilà, j'ai réfléchi. Et puis, je me suis dit...
Et vous avez donné carte blanche.
Oui, absolument. Et en réfléchissant, je pensais que c'était vraiment une très belle façon de qu'on élimine la distance qu'il y avait entre nous géographique et de se retrouver... pour un projet en commun. Je trouvais ça formidable. J'en avais très envie en même temps de travailler avec lui en dehors de l'album. C'était quelque chose qui m'effrayait autant que j'en avais envie, en fait.
Alors, mais les premiers titres que vous lui avez livrés, David ?
Le premier titre que j'ai composé pour lui, c'est sur l'album, c'est une chanson qui s'appelle « Un jour viendra ». Et en fait, c'est quand j'ai composé cette chanson que j'ai eu l'idée du fil conducteur de l'album. Et je lui en ai parlé, je lui ai dit, voilà, moi, si je fais tout l'album, j'aimerais tenter de reproduire un petit peu les chansons que moi j'aimais de toi quand j'étais petit, en fait. Ce qui m'a le plus bouleversé, ce qui m'a marqué, des chansons qui m'ont marqué
et
de toi.
Et c'était lesquelles, justement ?
Oh bah, Que je t'aime, je pense que ce sont les standards que les gens adorent de lui aussi. Mais bon, Je suis né dans la rue... jusqu'à l'idole des jeunes, en fait. Et j'ai composé ce titre-là, Un jour viendra, et ça m'a donné l'idée du reste de l'album. Et en fait, je l'ai composé assez rapidement parce que j'avais l'idée en tête. Et puis, je suis rapidement arrivé en France et, pour partager le reste des musiques que j'avais composées, pour voir, voilà, alors on a bossé là-dessus ensemble. Il m'a dit ce qu'il aimait, ce qu'il aimait moins. Alors j'ai refait certaines choses. Mais l'album a vraiment coulé comme ça.
C'était
vraiment quelque chose d'instinctif.
Ouais. Alors Ferrarissime, 100%, a convaincu autant la critique que le public. Il a dépassé de très loin, je le disais tout à l'heure, les ventes des albums conçus par Michel Berger et Jean-Jacques Goldman. Pourquoi pendant toutes les années qui ont suivi et jusqu'à la disparition de votre père, David, vous n'avez jamais plus réussi à placer auprès de lui un album entier?
C'est pas une question de réussir, c'est que on me l'a proposé une fois et je n'étais à cette époque-là, je n'étais pas dans le de recommencer l'expérience, pas parce qu'elle fut mauvaise, elle fut un marqueur dans ma vie personnelle, mais parce que j'avais plutôt envie de laisser une touche. On va dire unique en ce moment qui nous appartenait. Voilà. Et de refaire un autre album, pour moi, c'était un petit peu trahir ce qu'on avait déjà fait ensemble. Et ça me semblait moins naturel pour moi de le refaire.
Absolument, ouais. Mais il paraît que quelques mois avant que votre père ne disparaisse, vous aviez commencé à griffonner des partitions. Il paraît qu'il y a 3, 4, 5 morceaux que vous imaginiez pour lui. Que vous aviez envie de lui faire chanter, c'est vrai ça ou pas ?
Oui, c'est vrai, mais quelques morceaux, oui. Quelques morceaux, mais pas l'idée de faire un album. Mais ça, c'était il y a 2-3 ans déjà.
Il y a 2-3 ans. Alors en fait, David, c'est parce que vous êtes un musicien que vous aimeriez pouvoir avoir un droit de regard finalement sur la gestion de l'image, l'utilisation de l'œuvre de votre père, son patrimoine musical. C'est tout à fait légitime ça.
Bah, jusqu'à preuve du contraire, c'est mon père, donc c'est oui.
Et pourtant, c'est légitime, mais c'est compliqué.
Qui n'en déplaise, c'est oui. Bah, c'est mon père, donc moi en tout cas, avec mes codes, c'est normal. Ouais, ouais.
Vous y parviendrez ?
Bah, écoutez, oui, il y a...
Il faut que le droit se mette du côté du bon sens.
Oui, mais je suis pas...
je sais que vous êtes quelqu'un
pas très inquiet
de pas du tout belliqueux
que...
et de très serein et de très détaché.
Non, mais c'est surtout, vous savez, mon père était quelqu'un de formidable. C'était un homme aimant envers toute sa famille, tous ses enfants, ses amis. Il a donné beaucoup à tout le monde. Et je pense que l'héritage artistique est quelque chose d'important parce qu'il faut que ce soit cette image-là qui soit colportée. Ses fans l'ont aimé pour ça aussi. Et je pense que c'est le rôle des gens qui l'aiment encore et qui l'aimeront toujours de continuer cette image, de dire l'homme qu'il était et pas l'homme qu'il n'était pas. Voilà, donc c'est ça surtout qui m'anime et je trouve ça très important. C'est comme ça qu'on arrive à rendre un héritage musical, à le faire perdurer dans le temps. Et j'en suis persuadé aujourd'hui, on le voit dans d'autres artistes, voilà, et ils le méritent amplement.
Dans quelques minutes, la conversation entre Isabelle Morizet et son invité David Hallyday se poursuit sur Europe 1. Il dévoilera sa vie de pilote de course automobile. A tout de suite sur Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Depuis 21h, vous écoutez la conversation entre Isabelle Morizet et son invité David Hallyday. On les retrouve tout de suite sur Europe 1.
David Hallyday, finalement, assez peu de personnes parmi le public savent que vous menez une double vie, puisque parallèlement à la vie de chanteur, il y a celle de pilote de course automobile avec un palmarès que j'avoue vraiment étonnant. Vous vous êtes engagé en Formule 3 en 90, mais votre ambition c'était l'endurance et les 24 heures du Mans, auxquelles vous avez participé d'ailleurs plusieurs fois. Alors je précise que vous avez remporté un titre de champion de France en grand tourisme, vous avez terminé deuxième je crois au championnat de France en 2011 et troisième en 2014. Vous êtes monté sur le podium avec l'European Le Mans Série en 2016 et puis actuellement il paraît que vous pilotez dans la Porsche Carrera Cup France 2018. C'est pas anodin tout ça? J'avoue être impressionné.
Je sais pas franchement si c'est impressionnant. Bah, quand on a des passions, je pense que voilà.
On peut avoir des passions et être médiocre. Là, ce sont des passions qui vous font monter aussi sur les podiums.
J'ai pas toujours été bon. Il y a des courses que j'ai perdues aussi. on va dire que non, mais c'est vrai que j'ai beaucoup pratiqué parce que ça m'a permis en même temps de me focaliser sur d'autres choses aussi. J'ai eu beaucoup de chance de le faire parce que le sport auto, c'est quand même un sport très élitiste. Faut trouver des partenaires, tout ça, c'est très compliqué. Mais en même temps,
ça aide ou ça n'aide pas de s'appeler David Hallyday pour trouver des partenaires dans la course auto? C'est au contraire un préjudice.
Ça fait tout le contraire.
Ouais, d'accord, on pense qu'on n'est pas sérieux.
Oui, et puis après, il faut faire ses preuves. Ce qui est grisant dans son sport, dans n'importe quelle sorte de forme de compétition, que ce soit dans n'importe quel sport, je pense qu'au début, on est là et puis on ne te prend pas au sérieux. Je pense que c'est la nature humaine qui veut ça. Et puis après, c'est à toi de pousser les portes et puis de te faire respecter. Je pense que dans la vie, c'est pareil. Et le sport, c'est une merveilleuse école de la vie qui t'apprend comment gérer ça, justement, à t'imposer, on va dire, d'une façon sportive quand tu fais du sport. Et sur le long terme, finalement, quand tu commences à gagner des courses, on te prend moins pour un rigolo. Et après, quand on commence à te prendre pour un adversaire, c'est là que les choses commencent à être bonnes, en fait.
Alors, c'est archi-physique, la course automobile. Il peut faire plus de 50 degrés dans une voiture où on est encagoulé, sans air, avec une pression démente sur la cage thoracique. Et puis, au final, c'est le mental et le contrôle, finalement, de la prise de risque qui fait la différence. Donc, l'expérience acquise en course automobile, on peut dire qu'elle vous a servi dans la vie?
Le sport m'a servi dans la vie. Le sport, quand je faisais beaucoup de tennis aussi, le sport, c'est une école formidable de la vie parce qu'on apprend, apprend à gagner humblement, on apprend à perdre. Je veux dire, c'est quand on perd qu'on apprend, parce que quand on gagne, c'est formidable, on n'a rien à apprendre.
Bien sûr, continuer d'en faire, par exemple, est-ce que c'est parce que l'adrénaline de la scène ne vous suffit pas, David Hallyday?
Non, pas du tout, mais je pense qu'on est capable de faire plusieurs choses dans la vie, je pense... en termes de passion, et puis quand on peut les faire et qu'on n'est pas trop mauvais, je pense que c'est quelque chose de grisant.
Plus belle frayeur, c'était sur quel circuit?
Oh là là, je ne sais pas. Je pense que c'est au 24 Heures du Mans, où j'ai une colonne de direction qui a cassé un endroit pas sympa, on va dire.
Et là, vous vous êtes dit, je vis peut-être mes derniers instants?
Oui, c'est toujours... c'est un sport dangereux quand même, donc... C'est un sport dangereux, mais tout est dangereux, Isabelle.
Non, mais telle que je connais
tout
Sylvie,
est dangereux. La vie
elle a
est dangereuse.
Dû vous supplier un milliard de fois de renoncer à la course automobile.
C'est le rôle d'une maman quand même. Une maman ne peut pas aimer que son fils fasse des sports dangereux. Mais c'est ce que je lui ai toujours expliqué. Je lui dis, mais tu sais, mais nos vies, ta vie est dangereuse aussi. La scène, c'est quelque chose de dangereux. Se remettre en question, tout est dangereux quelque part quand on commence à réfléchir. Et c'est marrant qu'on ne lie pas le sport, la compétition avec... les risques, c'est pas parce qu'il n'y a pas de risque physique qu'il n'y a pas de risque. C'est marrant qu'on arrive à dissocier les deux alors que moi j'associe les deux.
Mais vous trouvez facilement de la place dans votre agenda pour y glisser des courses automobiles? En ce moment, ça doit être un peu compliqué, non?
Non, mais j'en fais beaucoup moins déjà, j'en fais beaucoup moins. Je fais pas tous des championnats et puis ça va en diminuant et en diminuant. C'est très compliqué.
Entre deux concerts, David Hallyday, vous continuez de voyager et de finaliser les projets que vous avez, par exemple, avec votre boîte de production, parce que vous faites beaucoup, beaucoup de choses.
Oui, j'ai des projets dans la musique, je construis aussi... dans d'autres pays aussi, j'ai pas mal de choses que je fais. Moi, je suis quelqu'un d'un peu hyperactif et j'aime monter des projets, j'aime m'occuper des autres aussi. J'aime monter des choses.
Mais alors, cinéma, télé, discographique?
Un très très gros projet dans le milieu du cinéma. Et puis, dans la musique aussi. Ouais, dans la musique aussi, dans les deux. Donc, j'ai plein de choses sur le feu.
Avec des sociétés que vous avez montées?
À des sociétés françaises qui sont en France et que j'ai monté, dont fait partie ma société de production aussi. Donc voilà, je monte des choses, c'est très excitant d'ailleurs parce que ça me donne d'autres objectifs et d'autres challenges. Je suis un homme à challenge, Isabelle, tu as compris ça maintenant.
Je suis bluffée. Toutes les vies de David Hallyday.
Non, mais en fait...
C'est passionnant et inattendu parce qu'effectivement, c'est un sacré éventail.
Oui, finalement, ça reste dans mon secteur, donc j'aime bien. Je n'aime pas me reposer sur mes lauriers. J'aime toujours avancer et puis construire des choses. Je pense que la vie est trop courte pour ne pas construire. C'est surtout ça.
Dans quelques instants, la dernière partie de Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, consacrée ce soir à David Hallyday. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Europe 1.
Très belle soirée sur Europe 1. On retrouve tout de suite Isabelle Morizet et David Hallyday pour la dernière partie de Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
David Hallyday, ce nouvel album intitulé « J'ai quelque chose à vous dire » est conçu juste après le départ de votre père auquel vous avez été empêché de dire au revoir. Eh bien, ce dernier album, il est tout entier habité par le souvenir de Johnny et puis ces mots que vous n'avez pas pu échanger à l'heure où tombe la pudeur, à l'heure où on se dit tout. Mais désormais, le père, c'est vous. Vous avez 3 enfants, vous avez 2 filles, 1 garçon. J'aimerais bien savoir quel père vous êtes.
Ça, il faut le demander à mes enfants.
Ah non, c'est à vous que je pose la question.
Bon, ça fait 23 ans que je suis papa. Hein.
Mais, donc, mais quel papa ?
Mais, un bon, j'espère. Non, mais tu sais, c'est pas sans surprise. Je veux dire, c'est compliqué d'élever des enfants. Aujourd'hui, tout va très vite. Et bon, il y a l'image, tout ça, c'est compliqué. Je pense qu'à partir du moment, je me suis toujours dit, à partir du moment où je garde le contact avec eux, qui vont grandir, je pense que j'aurai réussi mon rôle de papa, en fait. Ce qui est important, c'est de garder le contact.
Donc
tout
vous
au
êtes
long
un père
de la vie.
Toujours connecté.
Ouais,
qu'il soit en tournée,
toujours,
qu'il soit
toujours
à 15 000 km, qu'il soit...
Ouais, on est très famille, on adore, on aime ça, la famille, c'est la bulle de sécurité, quoi. Chez nous, en tout cas,
c'est comme... Ça, c'est l'éducation slave que vous a donnée, Sylvie.
Ah oui, c'est l'éducation qu'on a eue, mais slave, je pense que c'est l'éducation... sont les valeurs que l'on m'a transmises quand j'étais depuis petit, et j'ai des convictions sur la famille, disons que c'est vraiment que c'est une bulle de protection. Oui, donc les enfants, c'est moi, mes enfants, c'est la continuation, c'est de moi-même,
c'est sacré,
c'est sacré, les enfants sont sacrés. Mais c'est on galvaude un petit peu ce thème, disons les enfants c'est sacré, oui forcément, bon les mons c'est sacré. Mais non, en fait, c'est pour moi ça l'est. En fait, c'est un amour indéfinissable, mais il faut leur donner aussi la liberté de faire, de s'accomplir, de s'épanouir. Il faut accepter le départ, il faut accepter la distance, il faut accepter tout ça. C'est compliqué pour quand on les aime, évidemment. Hein. Et puis voilà, mais il faut garder le contact. Il faut garder le contact à travers plein de choses. Ben, il y a beaucoup de choses qui nous lient aussi, hein, entre nous. Donc, mon fils est assez geek. Il adore tout ce qui est informatique. Il aime la musique, évidemment.
Il a une âme de musicien, Cameron, qui a 14 ans.
Il peut me faire découvrir aussi pas mal de trucs.
Ah oui ?
Ouais. Non,
qu'est-ce qui vous a fait découvrir, par exemple, récemment, qui vous plaît beaucoup et vous écoutez
Il découvre. Ouais, il est sur YouTube assez souvent. Et puis, il me sort des groupes islandais, des artistes que je ne connais pas. Il me dit « Écoute ça, papa, c'est génial !» Et il me fait écouter des trucs. En fait, comme je faisais avec mon père quand j'étais petit, en fait. Donc, c'est assez rigolo de voir l'histoire qui se répète. Et c'est formidable, je
et
ne changerai
rien. Et comme mon fils qui m'envoie de la musique de Californie à écouter également.
Bah voilà,
il joue de la batterie.
Il joue
aussi,
de la batterie,
Cameron.
Mon fils. Ouais, il joue vachement bien. Ouais. Il prend des cours toutes les semaines. Ouais, il adore.
Alors, David Hallyday, en ce moment, j'imagine qu'avec la sortie de l'album, vous êtes plutôt parisien, mais sinon, votre port d'attache, il se trouve où ? À New York, à Londres, au Portugal ? Parce qu'on a le sentiment que vous ne cessez de faire vos valises.
Je voyage pas mal. J'ai toujours beaucoup voyagé. Je suis quelqu'un qui a du mal à rester en place, un peu de par le fait de mon métier. On est tout le temps sur les routes, tout le temps... On peut enregistrer à droite, à gauche, donc on est souvent parti. Donc c'est une habitude, c'est depuis que je suis petit, on voyage et c'est formidable de voyager. Au bout d'un moment, c'est bien de se poser aussi un peu chez soi. Mais on a eu la grande chance de voyager et mon métier m'a permis de découvrir énormément de choses dans le voyage. Et j'adore ça, j'adore faire mes valises. J'aime bien les poser aussi, même dans, de temps en temps, de plus en plus souvent.
Bon, il file trop vite. Le temps avec vous, avec toi, cher David. Je le répète, l'album qui vient de sortir a pour titre « J'ai quelque chose à vous dire ». Mais qu'aurait-on oublié de se dire, David, au cours de cette conversation ?
Je le mettrai dans le prochain album.
Dans le prochain album ?
Si tu veux.
Je vous embrasse et je vous dis à
Merci
très vite,
beaucoup.
David.
Merci, à bientôt.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec David Hallyday sur Europe 1. Demain mardi, ne manquez pas le portrait de l'acteur, humoriste et réalisateur Michel Boujna. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les émissions Il n'y a pas qu'une vie dans la vie en podcast sur Europe 1 et l'application Europe 1. excellente soirée sur Europe 1 à suivre le journal de Thibault Lambert.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.